Vous êtes sur RTL.
Je m'impose pas, j'écoute. Et c'est vrai qu'on est venu me chercher. On m'a demandé si je serais d'accord pour faire partie. Donc j'ai dit bah tiens oui pourquoi pas parce que c'est un milieu que je connais absolument pas. Je suis pas élue, je suis pas voilà. Je me suis dit bah oui comme ça je vais voir de l'intérieur effectivement un petit peu comment ça se passe. J'avoue que je suis un petit, enfin je savais pas hein, donc je découvre. Depuis ça fait quand même on a commencé en février mars. J'ai la triste sensation que beaucoup de ceux qui sont dans ces espèces de je vais dire groupuscules, en fait, pensent plus à ce que ça va pouvoir leur apporter à eux que à ce que ça va pouvoir apporter au pays. Alors, je me trompe peut-être, c'est peut-être simplement le groupe dans lequel je suis, etc. Pour le moment, c'est un peu ma sensation. J'ai pas trop l'impression qu'on travaille sur du concret. Bon, c'est une campagne, donc bon, voilà, c'est pas toujours facile, on n'a pas beaucoup de temps. Mais c'est un peu le retour. On a quand même, bon, on est sur des groupes d'échange Telegram, etc., où on échange tous. On a un peu l'impression qu'on passe de la crème dans le dos à celui, bon, qui a un poste bien placé et que, bon, peut-être un jour, il pourrait nous amener quelque chose. Et moi, ça m'agace un peu parce que moi, c'est pas ma vision de la politique. Moi, la politique, c'est on s'investit, on essaye de faire des actions. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, que les seuls qui réellement font du concret, avancent, essayent de poser des pions, c'est les maires.
Non, mais j'entends ce que vous dites, mais en même temps, j'allais dire, il y a une part de naïveté, Véronique, dans ce que vous dites, forcément, c'est la nature humaine. Alors, c'est pas incompatible, d'ailleurs, on peut à la fois penser à soi et penser aussi, j'ai envie de dire, à ce qu'on laissera à la France à être utile, c'est aussi... mais évidemment que tu fais jamais les choses d'une manière complètement désintéressée, même faire le bien, d'une certaine manière, tu le fais pour toi. Pour l'image que tu as de toi et que c'est, tu préfères ça.
Alors, c'est sûr que c'est Egoland. Hein. Alors là, moi, j'ai découvert Egoland. C'est hallucinant. Alors que,
les hommes politiques,
ouais, c'est impressionnant.
Mais celui qui s'engage par définition, il doit avoir sans doute un ego plus fort que les autres. Autrement, il reste dans la masse.
Oui, peut-être, parce que c'est vrai que moi, voilà, on m'avait déjà sollicité plusieurs fois, puis bon, j'étais occupée, etc., j'avais pas le temps, j'avais refusé. Là, j'ai dit, bon, j'ai un peu plus de temps, pourquoi pas, je vais aller voir. Alors, c'est vrai que, effectivement, il y en a qui sont déjà, bah, effectivement, élus, etc., bien placés, bon, qui ont des égos, mais alors démesurés.
Vous trouvez?
Ils supportent pas trop. Ah oui.
Et alors, ça, moi, ça m'intéresse toujours, ça. Ça se traduit comment, par exemple, Véronique?
Ah ben c'est-à-dire qu'en fait ils imposent leurs idées. Nous pour la campagne, par exemple, on voulait faire une photo à certains endroits avec des enfants. Ah ben non, faut pas faire comme ça. Bon, il a fallu carrément que je me fâche en disant mais moi je veux faire comme ça. Ah oui, mais vous ferez pas tant de pourcents machin. Et laissez-moi donc monsieur faire mon expérience. On apprend que comme ça. J'ai élevé 6 enfants, donc je sais qu'on apprend que de ses expériences. Donc je vais faire l'expérience. Si je m'aperçois qu'effectivement j'ai des retours négatifs, etc. La prochaine fois, eh ben effectivement.
Et vous trouvez que c'est machiste comme univers?
Ah, en plus oui. Alors il y a un univers très très machiste.
Ah bon?
C'est qu'en fait, quand les femmes qui ont un peu de caractère, toujours pareil, je débute, hein, je suis toute
seule. Oui, bien sûr, et puis ce n'est c'est qu'une photographie.
C'est peut-être ce n'est peut-être que dans mon groupe, mais effectivement, les femmes qui essayent un peu de s'imposer, qui la ramènent un peu, sont écartées.
C'est un monde de mâles dominants.
Ah oui, ah oui.
Bon, bah écoutez, merci clairement. De ce premier témoignage. Alors, je rappelle quand même que les régionales, c'est assez nouveau finalement. Hein. C'est la loi de décentralisation de mars 82. C'était d'ailleurs une des promesses de François Mitterrand, la décentralisation. Et donc, cette loi de décentralisation avait institué des régions comme collectivités territoriales. Et à partir de 86, il y a eu les premières élections régionales. Et depuis lors, il y a des élections régionales tous les 6 ans, puisque le mandat est de 6 ans. Vous allez pouvoir nous donner votre avis sur ce sujet, mais également sur d'autres sujets. J'ai dit le retour de Karim Benzema en équipe de France. C'est quand même un événement. Il n'a pas joué depuis 5 ans et demi. Est-ce qu'il fallait rééditer Mein Kampf? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Vous pourrez nous appeler. Puis, si vous êtes parent d'ado, est-ce que vous allez faire vacciner vos enfants, et puis les billets de train également. Moi, je trouve toujours que c'est trop cher, un billet de train. C'est même une fortune, comme on dit. Tu pars à Bordeaux en seconde, un aller-retour, c'est plus de 130 ou 140 euros, sans réduction. Donc, c'est hors de prix. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.
jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et bonjour à Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. C'est la question du jour. Comptez, vous allez voter pour les élections régionales et départementales. Elles se déroulent les 20 et 27 juin. Véronique a été la première à réagir au 32-10. Ces scrutins vous intéressent-ils? Évidemment, répond Grégory sur la page Facebook de l'émission. Ne pas voter, c'est laisser les autres décider pour soi. J'irai voter, nous dit Jacqueline, mais sans grand enthousiasme. Marie le dit clairement, je vais me méfier des alliances d'opportunistes, celles et ceux qui se détestent un jour et s'aiment le lendemain. Bon, ne comptez pas sur moi aussi, hein, réagit Alexandre. À quoi bon? On ne me verra pas perdre mon temps pour ces politiciens égoïstes. Le choix du moins pire ne m'intéresse pas.
Merci Laurent. Céline est avec nous, Céline qui est infirmière. Bonjour Céline, est-ce que vous irez voter les 20 et 27 juin?
Oui, j'irai voter. Je n'ai jamais raté une élection depuis que je vote, depuis l'âge de 18 ans.
Est-ce que votre choix est fait?
Alors, mon choix n'est pas encore fait. J'attends de voir les professions de foi de chaque candidat. Étant infirmière et selon ce que je suis, j'ai traditionnellement toujours voté à gauche. Et là, en fait, j'attends en tout cas, quel que soit le parti, je voterai pour un candidat qui mettra, alors je vais prêcher pour ma paroisse, mais qui mettra l'accent sur la guérison de l'hôpital qui est très très malade aujourd'hui. On a pu bien le voir là avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Moi j'attends d'un candidat qui puisse réouvrir des lits qui ont depuis longtemps été fermés, qu'on puisse recruter du personnel ou en tout cas envisager une meilleure répartition puisqu'il y a quand même 35% de personnel hospitalier qui est administratif. On a de plus en plus de directeurs de la communication, directeurs des travaux, directeurs... Voilà, il y a plein de directions différentes au détriment du coup du personnel autour du malade. Un candidat qui pourra aussi envisager la rénovation de certains établissements qui sont complètement dégradés et qui pourra aussi rendre attractif le secteur. Je pense notamment aux EHPAD qui ont de plus en plus de difficultés à recruter puisque c'est un métier qui est très difficile et notamment ce domaine-là en particulier qui demande beaucoup de temps et on presse de plus en plus le personnel à faire beaucoup en étant peu.
Vous dites que vous avez toujours voté à gauche, est-ce que vous avez toujours voté par exemple pour le même parti ou est-ce qu'il y a parfois des sensibilités à gauche différentes?
Oui, ça a toujours été à gauche. Alors, j'avais voté à l'époque pour François Hollande en 2012. Mmh. En 2017, j'avais voté pour Jean-Luc Mélenchon.
C'est pas la même chose quand même.
Non. Et là, pour 2022, je sais que je ne revoterai pas pour Jean-Luc Mélenchon, mais je ne sais absolument pas pour qui je vais voter. Et ça me désespère un peu parce que je sais pas du tout.
Et pourquoi ne souhaitez plus voter pour Jean-Luc Mélenchon?
Parce que dernièrement, il a eu des propos qui n'étaient pas conformes à ce que je suis, des propos, des comportements. Il y a eu pas mal d'exemples dans la presse et je n'adhère pas à ce qui a pu être dit ou fait. Et donc, je ne vote pas à droite, mais parce que justement, j'attends de... À droite, on va pas justement trop mettre l'accent sur... Parce que développer les hôpitaux, ça voudrait dire recruter davantage de fonctionnaires. On sait qu'à droite, on a plutôt...
Vous-même, vous avez dit qu'il y avait trop d'administratifs, Céline?
Oui,
il y a deux secondes. En fait, l'argent de l'hôpital, on connaît assez bien maintenant le sujet. Il y a autant d'argent qu'en Allemagne. Simplement, il est sans doute mal ventilé. Vous-même, vous êtes formidable, Céline. Vous-même venez de dire, il y a deux secondes, il y a ce directeur de ceci, ce directeur de cela, ce directeur de... c'est ça, c'est le boulot à faire. Le boulot à faire, c'est de effectivement rendre à l'hôpital, plus d'efficacité, plus de productivité peut-être, mais surtout de mettre l'argent là où il doit être mis.
Voilà.
Le directeur de la communication de l'hôpital, effectivement, je suis pas sûr que ce soit primordial. En revanche, oui, ça l'est.
Voilà, donc j'exclus pas de voter à droite si un candidat de droite peut proposer ça. En fait, moi, je donnerai ma voix au candidat qui pourra proposer...
Mieux défendre l'hôpital.
Voilà, tout à fait.
Vous êtes dans le Nord, hein ?
Tout à fait.
Donc c'est Xavier Bertrand ?
Oui, oui. Mais je rejoins Véronique qui disait tout à l'heure que les politiques pensent davantage à l'obtention de leur pouvoir personnel, qui pour moi est un objectif plutôt narcissique que par adhésion à des idées qui pourraient se traduire par de vraies actions sur le terrain.
Céline, moi je vous assure, souvent j'entends ça, mais si quelqu'un veut s'engager, s'il veut être maire d'une ville, s'il veut être député, s'il veut être pourquoi pas ministre ou président de la République, forcément il a un caractère où il y a une part de ce que vous avez appelé narcissisme. Alors je trouve que le mot est tellement péjoratif, mais c'est vrai aussi pour un chanteur, un acteur, pourquoi pas un journaliste. Tous les gens qui ont envie d'être un poil dans la lumière, vous pouvez leur faire ce reproche-là.
Non, parce qu'un politique, pour moi, il est capable de faire l'anguille selon à la personne avec qui il s'adresse. Un artiste, pour moi, il est ce qu'il est. Il ne s'adaptera pas à la personne à
vous
qui
croyez?
Il s'adresse. Ah, je suis convaincue. Franchement, je pense notamment aux chanteurs, aux acteurs. On les voit souvent, ils sont tels qu'ils sont et ils restent sur leur ligne. Un politicien, pour moi, c'est une anguille. C'est quelqu'un qui va s'adapter au milieu là où auquel il sera confronté, quoi. Juste pour pouvoir gravir des échelons. Moi, en tout cas, et comme beaucoup, j'ai pas confiance.
Que c'est très désenchanté. En tout cas, merci Céline de votre franchise parce que c'est intéressant d'avoir comme ça une pensée avec à la fois c'est très très construit hein, évidemment ce que vous dites, c'est fortement désenchanté, mais faut continuer à croire quand même en nos hommes politiques et croire en nous parce qu'on sait comment ça se passe là où on ne peut pas voter. Nous on a le droit de voter, c'est quand même une chance pour nous. Greg Caranoni, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous votez où? Vous votez à Paris ou vous votez dans le sud de la France?
Je vote à Paris.
Oui, parce que vous savez que parfois, certains ont gardé leur...
Leur
adresse de papa et maman.
C'est vrai, alors pas moi.
Moi, je rencontre des gens parfois qui ont 45 ans qui vont chez leurs parents.
Bah, vu le prix du billet de train pour aller faire un Paris-Marseille, si vous voulez, je préfère voter.
Dites-le nous, le prix du billet de train, ça m'intéresse. Quand vous allez à Marseille, vous payez combien?
Ça dépend des moments, mais ça peut être 150 euros, comme vous le disiez tout à l'heure, pour aller à Bordeaux, par exemple.
Ah, oui, mais alors si vous allez à Marseille en passant par Bordeaux, ça coûte plus cher.
Bien sûr que non. Vous pouvez aussi trouver des billets de train nettement moins chers. Oh là là, c'est pas vrai.
Je travaille pour mon ami Laurent.
Oui, je sais. Vous travaillez pour le débrief. Vous mettez en avant comme les politiques.
Si effectivement vous passez par Bordeaux, forcément c'est plus cher. Vous pouvez passer par Pau également. Il y en a qui ont essayé.
Ils ont eu des problèmes.
Ils ont eu des problèmes. Bien. 13h16, appelez-nous Karim Benzema. Est-ce qu'on va voir Philippe Sanfourche? À 14h, Philippe Sanfourche sera là. Magnifique, le retour de Karim Benzema. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Vous pourrez agir dans quelques minutes à cette question. Fallait-il rééditer Mein Kampf, le manifeste nazi d'Adolf Hitler? Les éditions Fayard ont fait traduire le texte. Historiciser le mal. Une édition critique de Mein Kampf est mise en vente aujourd'hui au prix de 100 euros. Des centaines de notes encadrent le texte original. Les défenseurs du projet entendent désarmer un objet fantasmé. Olivier Manoni a eu la lourde tâche de traduire le manifeste. 8 années de travail aux côtés d'historiens. Il était l'invité d'Alba Aventura ce matin sur RTL.
J'ai un peu l'impression d'avoir manié de l'uranium radioactif pendant un certain nombre d'années. C'est un texte dans sa forme totalement complotiste. Ça a été une bible et le fait de travailler dessus et de le publier comme le publient les éditions Fayard aujourd'hui fait précisément que ça cesse d'être une bible. Ça devient un document pour les historiens, un document dont les arguments, les mensonges qui sont innombrables sont démontés les uns après les autres avec une précision absolument fantastique par les historiens qui ont travaillé sur ce sujet en Allemagne et en France. Aucun fanatique de Hitler ne va acheter un pavé pareil avec en plus chaque morceau de texte encadré par 40 notes qui démentent ce qui est indiqué.
Le livre ne sera pas dans les rayons des librairies mais disponible uniquement sur commande. Est-ce une bonne manière de lutter contre la manipulation et récupération politique? Eh bien, c'est un livre qui fait partie de l'histoire, lance Sylvie sur nos réseaux sociaux. Il montre vraiment qui était Hitler. Ce travail est important pour Gérard. Toutes ces notes sont essentielles pour casser tous les propos ignobles tenus. Et sincèrement, répond Bernard, je ne vois pas l'intérêt. Mettons cela aux oubliettes.
Romain, l'histoire a toujours un intérêt, on peut lui répondre, évidemment. Comprendre l'histoire pour éviter peut-être qu'elle ne se reproduise pas, c'est intéressant quand même. Quand on parlait de complotisme à l'instant, on sait que ce complotisme existe aujourd'hui parfois, donc il peut exister des parallèles, bien sûr. Romain est avec nous, bonjour Romain.
Bonjour Pascal.
Et merci. Alors vous êtes un jeune électeur, vous avez 25 ans, donc comme c'est tous les 6 ans, vous avez déjà voté pour les régionales ?
Je vous remercie de m'avoir un peu rajeuni, j'en ai 26, mais...
26 Oui, donc vous avez voté déjà une première fois.
Absolument.
Bon. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter ?
Oui. Mon choix est fait depuis longtemps, donc il n'y a pas de suspense de mon côté. En tout cas, je sais pour qui je vais voter. Oui.
Est-ce que vous avez le sentiment que vos idées sont assez stables politiquement ?
Oui, de façon générale, j'ai toujours voté dans la même ligne depuis que je vote. Ma première élection, c'était les municipales de 2014. Donc vous voyez, je suis assez peu chamboulé par ce nouveau monde, comme on l'appelle. En revanche, ces élections régionales, puisque je vais plutôt insister sur l'aspect régional, moi, me font l'effet d'une espèce de préparatif de la présidentielle, doublement. D'abord parce qu'elles ont lieu moins d'un an avant la présidentielle, ce qui est assez inédit. Je rappelle quand même que les élections municipales de 2007, puisqu'elles devaient normalement avoir lieu en 2007, ont été repoussées en 2008 pour pas que ça entre en collision avec la présidentielle. Là, on l'a pas fait. Bon.
C'était la même année.
Ça devait tomber la même année, mais en l'occurrence, on a reporté an après la présidentielle. Là, on est 10 mois avant.
Oui, mais comme les municipales de 2007 étaient prévues 2 mois avant la présidentielle, c'est un cas de figure qui est un poil différent d'aujourd'hui. Là, les régionales sont prévues 1 an avant.
Avant, mais voilà, j'insiste sur l'antériorité. Ensuite, moi, j'ai un problème, je l'allais dire, depuis 2015, c'est que la région dans laquelle je vote, en l'occurrence Nouvelle-Aquitaine, puisque c'est comme ça que les barons bordelais ont décidé de nommer leur nouveau territoire, cette région ne correspond absolument pas à la réalité de ce que je vis. Moi, je suis du Limousin, je suis de Limoges. Donc je vais voter pour un scrutin, si vous voulez, sur un territoire qui est beaucoup trop éloigné de mes préoccupations. Et ça, je pense qu'on sous-estime les conséquences du redécoupage sur la motivation des électeurs, parce que je vous signale que sur la seule région Nouvelle-Aquitaine, et là, sans faire de parti pris, aucun des grands partis n'a mis en tête de liste quelqu'un émanant du Limousin ou du Poitou-Charentes. Ils sont tous de l'Aquitaine. Donc on a vraiment l'impression d'être l'arrière-pays. D'ailleurs, il y a plusieurs candidats qui ont utilisé ce terme. Et c'est assez désolant. Et je sais que c'est le cas dans d'autres régions. Hein, à Amiens, à Clermont-Ferrand, à Metz. Voilà, il peut y avoir ce sentiment-là. Et c'est dommage. C'est pour ça que je pense que ce scrutin sera très politique et que de toute façon, les gens voteront pour préparer la présidentielle.
Bon, aujourd'hui, manifestement, c'est Alain Rousset qui dirige votre région.
Oui, j'avais 3 ans quand il a été élu pour la première fois, vous voyez.
Donc, il représente le PS et il y a également... alors, Virginie Calmels, la dernière fois, avait fait un bon score, mais aujourd'hui, elle n'est plus candidate puisqu'elle est retirée de la vie politique. Mais c'était Monsieur Rousset qui avait gagné de peu, d'ailleurs, dans cette élection régionale. Est-ce que vous avez le sentiment que les élections régionales servent à quelque chose dans votre quotidien ?
Oui, bien sûr qu'elles servent. Alors, dans mon quotidien, moi, j'ai pas encore d'enfants, donc je peux pas dire sur la gestion des lycées, par exemple. Mais en l'occurrence, c'est une compétence qui est importante. Sur les transports aussi. Oui, bien sûr. Il serait absurde de dire que ça ne sert à rien. Et j'aime pas trop le discours qui consiste à dire telle institution ne sert à rien ou les élus ne sont là que pour conserver le pouvoir. Non, je ne pense pas. Par contre, je pense, voilà, puisqu'on parle c'est un vrai sujet, puisque les élections arrivent, je crois qu'il y a trop d'échelons en France. Et il me semble qu'il y a une réforme dont plus personne ne parle, qui avait été votée sous la mandature de Nicolas Sarkozy. C'était le conseil territorial qui fusionnait les deux entités, c'est-à-dire qu'on gardait les frontières des anciennes régions, donc il y avait encore ce lien de proximité. L'élu était élu dans un canton, donc on connaissait son élu. Et en même temps, on réduisait un échelon, donc il y avait moins l'impression de ce millefeuille territorial. Bon, ça a été sapé par François Hollande. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a des cantons qui représentent pas grand-chose quand on est en ville. On a ces espèces de binômes, on ne sait pas trop ce que c'est, pourquoi il y a des binômes, pourquoi il y en a pas dans d'autres élections.
Qu'est-ce que vous appelez des binômes ?
Les binômes pour les cantonales, vous savez, on a fait un binôme paritaire, alors on vote pour 2 personnes. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas pour les législatives, après tout ? Pourquoi on ne fait pas 4, 6, 8, 12 ? Enfin, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de réforme, vraiment sur 2015, que ce soit le redécoupage des régions et sur les cantons, où tout a été bâclé.
Et puis c'est vrai qu'il
rend ce scrutin illisible.
Il y a peut-être, vous l'avez dit d'ailleurs, une structure en trop entre... le conseil départemental, conseil régional, peut-être que ça pourrait être fusionner. En tout cas, certains le demandent ou le disent. Merci beaucoup, Romain. Merci. Et puis, bonne élection, même si... et c'est intéressant ce que vous disiez, parce qu'en Nouvelle-Aquitaine, la ville de Limoges, manifestement, n'est pas représentée. On marque une pause. Aurore sera avec nous dans une seconde.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud. RTL.
Roland Garros 2021.
Gauthier de Lombugard est en direct de la Porte d'Auteuil à Roland-Garros. Bonjour Gauthier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Dites-nous ce qui se passe pour les Français.
Eh ben malheureusement, hein, encore une défaite pour une Française, Harmony Tan. Ça a été très rapide, 6-1, 6-3 face à la Tchèque, qui Vondrousova, qui est une cliente hein, sur terre battue puisqu'elle était finaliste ici en 2019, 21e mondial. Harmony Tan qui malheureusement n'a pas réitéré son exploit du premier tour puisqu'elle avait battu Alizé Cornet. On parlait des Français, là il y aura peut-être plus de chances pour Caroline Garcia qui est opposée à la Slovène Erkog. Elle n'a jamais perdu contre cette Slovène en 4 rounds. Contre. Donc on espère pourquoi pas une victoire, ça nous ferait du bien. Du côté des garçons, ça sera plus compliqué. En revanche, pour Enzo Cuoco, 177e mondial, puisqu'il est opposé au spécialiste de la terre battue, l'Espagnol Carreño Busta.
Et puis si vous êtes là, peut-être c'est parce qu'Isabelle Langer a décidé de reprendre la compétition et de descendre sur le central devant ses défaites françaises, cher Gauthier.
Peut-être, non, pas encore. Isabelle Langer est meilleure sur dur que sur terre battue.
Merci en tout cas. Merci Gauthier. On vous retrouve évidemment à 14h, 14h30.
Bien sûr.
Et Isabelle qui a accompagné magnifiquement la victoire hier de Gaël Monfils et qui a gagné parce que sa maman était là. Je l'ai écouté Isabelle hier soir et parce que sa famille l'a encouragé.
Oui, il a pu faire un petit câlin à sa maman. Ça faisait 2 ans qu'il ne l'avait pas vu.
Comme quoi, ce sont les mamans qui permettent aux joueurs français de pouvoir gagner à Roland-Garros. Merci Gauthier.
Merci beaucoup.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Aurore, qui est étudiante à Sciences Po, donc qui est passionnée de politique, j'imagine. Bonjour Aurore.
Bonjour Monsieur Praud.
Vous avez 18 ans.
Oui, c'est
donc,
ça.
Vous avez 18 ans depuis combien de temps?
Depuis janvier.
Ah, mais alors ça, c'est la première fois que vous allez voter?
Eh oui.
Mais,
eh
c'est,
oui,
mais c'est génial, Aurore. Tout le monde se souvient de la première fois, je veux dire, qu'il a voté.
Et oui, et ça va rester un grand souvenir. Et à chaque fois, le premier vote, c'est le plus important.
Bah, en tout cas, c'est, oui, la première fois, c'est parfois le plus important, comme vous dites. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter?
Oui, oui, oui. Je me suis informée depuis plusieurs mois et mon choix est fait.
Vous allez voter où, à Paris?
Non, alors, donc moi, j'habite à Paris, mais je vais voter en Bretagne. Donc, j'ai fait une procuration, en fait.
Parce que vous ne pourrez pas, ce jour-là, voter. Quels sont, alors je ne vais pas vous demander pour qui vous votez, mais quels sont les paramètres, les critères qui vous font choisir un candidat ou une politique d'ailleurs? Peut-être que c'est plus important pour vous une politique que celui qui l'incarne.
Oui, c'est plutôt la politique et le programme, en fait, et ce qu'il propose qui m'intéresse, puisque je pense sincèrement que les élections régionales et les élections départementales, c'est agir au niveau local. Et ça ne veut pas forcément dire être une compétition pour les présidentielles. On pense toujours aux présidentielles, mais il faut un petit peu aussi penser au local et aux actions qui sont proposées sur le terrain, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont proposées à chaque fois dans les programmes. Et il ne faut pas seulement voir le grand parti derrière ou la grande figure politique, mais voir ce qu'on fait réellement pour le quotidien des personnes. C'est ce qu'on réclame souvent dans la politique. Et là, c'est l'occasion de le faire dans les régionales et dans les départementales.
Mais alors, quels sont vos critères qui font que vous votez pour tel ou tel candidat?
De voir si au niveau écologie, il y a des choses qui bougent, parce que c'est agir local, hein, l'écologie. Mais aussi sur tout ce qui est social, sur ce qui est proposé en aide, ce genre de choses. Et évidemment, donc pour tout ce qui est politique des transports, tout ça.
On est en train de vous perdre, malheureusement, Aurore. Mais c'est important, de, et vous le faisiez un petit peu, de rappeler le rôle et les responsabilités d'un conseil régional. C'est plus important qu'on ne le pense parfois. C'est le développement économique, en particulier le soutien aux entreprises, à l'innovation, à l'internationalisation. C'est les transports, ça chacun le sait, c'est la compétence d'autorité organisatrice, le conseil régional. C'est évidemment les lycées, c'est-à-dire la construction, l'entretien, la gestion des services de restauration, etc. C'est l'environnement et la transition énergétique. La région est chef de file en matière de biodiversité, de qualité de l'air, de climat et d'énergie. C'est ça la décentralisation. On dit parfois qu'on est un pays jacobin, mais les régions ont évidemment beaucoup d'influence, beaucoup d'importance sur les équipements également, comme les ports, les aéroports. Tout ça, ça dépend de la région. Donc c'est une élection assez importante, politique forcément, parce qu'à chaque fois c'est des choix politiques. Et c'est pourquoi il faut sans doute aller voter. Aurore est toujours avec nous ?
Oui, toujours.
Eh bien, on vous reprend tout de suite après la pause, Aurore. On vous a retrouvé, à tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier.
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. Faut-il vacciner les adolescents contre la Covid-19 ? La Haute Autorité de Santé s'apprête à donner son avis. Qu'en pensez-vous ? Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste, membre du conseil scientifique, était l'invité d'Yves Calvi ce matin sur RTL.
Parce qu'on est avec des variants plus transmissibles, la proportion de la population qui doit être vaccinée pour que le virus s'arrête de circuler de façon épidémique augmente. Il faudra 80% immuniser, c'est-à-dire protéger, que ce soit par infection ou vaccination. Comme on a des vaccins qui sont pas 100% efficaces, il faut que 90% de la population soit vaccinée. Et vous comprenez donc que pour atteindre 90% de la population vaccinée, il faudra vacciner d'abord les adolescents et se poser la question pour les enfants une fois qu'on aura des données sur la tolérance de ce vaccin chez les moins de 12 ans.
Parents, adolescents, donnez-nous votre avis au 3210. Et sur la situation sanitaire en France, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, s'est exprimé il y a quelques minutes à la fin du Conseil des ministres.
Nous ne pouvons pas baisser la garde. Si le niveau global de la circulation du virus est aujourd'hui comparable à celui du début de l'automne dernier, des signaux d'alerte se font jour dans certains territoires. En Occitanie, en Nouvelle-Aquitaine, nous constatons des hausses parfois sensibles de la circulation du virus.
Et vous pouvez réagir dès maintenant au standard. Le billet de train coûte-t-il trop cher ? La SNCF va désormais proposer une seule carte avantage à 49 euros par an, avec une promesse, des billets 30% moins chers pour les adultes, 60% pour les enfants et des tarifs plafonnés. Exemple, 59 euros maximum pour un trajet Paris-Bordeaux. Les billets seront échangeables et remboursables jusqu'à 3 jours avant le départ. Et pour Kevin, sur nos réseaux sociaux, le train reste cher. C'est intéressant si tu voyages seul, mais pour une famille de 3-4 personnes, il vaut mieux prendre la voiture.
Merci Laurent. 896 pages, un coffret de 3,5 kg pour 30 cm de haut et 24 cm de large, comprenant un livre de 869 pages, annoté de bout en bout. L'objet est aussi impressionnant que la somme de travail qu'il a nécessité durant près d'une décennie. Historiciser le mal, une édition critique de Mein Kampf est mise en vente ce mercredi par la maison Fayard au prix de 100 euros. Nous sommes avec Laurent, bonjour.
Oui, bonjour Pascal, bonjour aux auditeurs.
Qu'en pensez-vous ?
Ce que j'en pense, moi je l'ai lu parce que je voulais comprendre. J'ai dans ma famille une branche communiste résistant, une branche gaulliste résistant. Je voulais essayer de comprendre contre quoi il s'était insurgé. Alors je suis tombé sur une version en gothique de 1943, avalisé par l'État français, donc j'ai lu ça à la loupe. Donc je ne l'ai pas lu, je me le suis farci, si on peut dire, parce que c'était... Alors ça part dans tous les sens, on discute d'une chose, après on part d'autre chose, on revient sur la première, après on traite d'une troisième, on revient sur la deuxième, ainsi de suite. Donc ça n'a ni queue ni tête. En revanche, ce que je note, c'est qu'on a vu l'homme à l'œuvre. Donc pour développer ce qu'il a fait, il fallait quand même avoir certaines idées, donc il était bon de les connaître. Il faut replacer ça dans le contexte. Ça a été fait à une époque où l'Allemagne sortait de la guerre de 14, qui avait pas été... l'armée ne voulait pas la capitulation, les civils l'ont pris, la crise est revenue par-dessus, la crise de 29, donc faut replacer ça dans le contexte. Maintenant, rééditer ça, oui, pour les historiens, pour faire avancer, comme aurait dit Coluche, le Schmilblick, Mais pour le quidam moyen, à part celui qui veut, comme moi, essayer de comprendre les tenants et aboutissants, je ne vois pas l'utilité. En revanche, bon, on verra. Je crois que c'est Plomb, vous avez dit.
Non, c'est Fayard.
Bon, eh bien, comme disait mon grand-père, qui était marchand de bestiaux, c'est à la fin du marché qu'on compte les bouses. Mmh. On verra combien ils en ont vendu.
Oh, je pense qu'ils en vendront pas beaucoup. D'abord parce que c'est cher, 100 euros. C'est quand même un produit cher. T'as 900 pages. Et moi je pense que c'est... qui va peut-être acheter ça? Pourquoi pas les universités d'ailleurs? Pourquoi pas les services de documentation? Pourquoi pas les gens qui sont en histoire, fac d'histoire? Mais c'est quand même très très pointu.
Pour moi, c'est très confidentiel. Alors, ne perdons en revanche ce que j'ai dit à votre standardiste qui m'a très agréablement reçu tout à l'heure. Ne perdons pas une chose de vue. Cet homme a été élu.
Oui, bien sûr. Mais vous avez parfaitement.
Et l'histoire revenant en boucle, ça peut très bien revenir. Un homme ou une femme providentielle. Je ne donne pas de nom.
Oui,
pourtant,
parce que
je suis à droite.
Comparaison n'est pas raison. Et justement, d'ailleurs, il faut être clair là-dessus. Il n'y a pas dans le paysage politique français aujourd'hui des gens qui sont héritiers d'Adolf Hitler. Voilà.
Bien entendu. Et
non, mais c'est important de le dire parce que parfois, ou d'ailleurs du fascisme ou du nazisme, parce que parfois, moi je pense que c'est même contre-productif d'attaquer quelqu'un en lui disant fasciste, nazi, etc. Ou même de comparer le Parti communiste d'aujourd'hui avec Staline. Tout ça n'a pas de sens, me semble-t-il.
Il n'y a aucun, effectivement, je partage totalement votre avis, il n'y a aucun sens commun avec le contexte de l'époque et ce qui se passe aujourd'hui. Mmh. Mais ne perdons pas de vue que cet homme-là avait été élu.
Mais vous avez parfaitement raison, dans une situation de crise. Non, mais ce qui est fascinant, en plus, on le dit à chaque fois, parce que quand nous, on donne des leçons, quand l'Occident donne des leçons, je veux dire, on est en Allemagne en 1933, dans un pays hyper cultivé, en tout cas parmi les plus cultivés d'Europe, avec des gens qui aiment la littérature, la musique, etc. Stefan Zweig en parle très très bien dans Le Monde d'hier. Et c'est là que la barbarie, la plus abominable va arriver.
N'oublions pas, excusez-moi Pascal de vous couper, n'oublions pas que le bon docteur Mengele avait deux doctorats. On l'appelait Herr Doktor, docteur.
Oui, mais donc c'est fascinant, forcément. Donc les leçons parfois que donne notre époque, et même lorsque certaines religions est stigmatisée, t'as envie de dire, regardez ce qui s'est passé en Europe il y a de cela 80 ans, 90
80 ans. Maintenant 80
oui.
ans simplement.
Et ça renvoie à ce qu'est la nature humaine. Et c'est ça qui est terrible.
C'est une génération. Et ça peut nous revenir exactement de la même façon.
Je pense que l'histoire ne repasse pas les plats de la même manière. Mais je pense que ça peut être une autre forme de domination, bien sûr.
Mais que les gens n'oublient pas.
Bien, c'est pour ça qu'il faut peut-être acheter ce livre. Merci beaucoup, Laurent.
Se cultiver. Voilà. Je vous remercie, Pascal.
Merci de cet échange. Il est 13h46 sur RTL. Karim Benzema est de retour. On aura Philippe Sansfourche tout à l'heure. Alors, malheureusement, il n'y aura pas de joueur ce soir. Vous savez pourquoi il n'y aura pas de joueur, monsieur?
Dites-nous.
Eh bien, parce que c'est couvre-feu. Monsieur Caradoni, c'est couvre-feu. C'est-à-dire qu'il y a des... Pourquoi il n'y aura pas de joueurs? Il n'y aura pas de spectateurs, évidemment.
Ah oui, parce
qu'il y aura
que c'est bizarre.
Il y a des spectateurs à Roland-Garros, mais il n'y en aura pas à Nice ce soir, parce que c'est couvre-feu. Autrement, la jauge permettait d'avoir 1000 personnes dans le stade. C'est déjà ça.
Parce que sans joueurs, en effet, il n'y aura pas de spectateurs non plus, ça n'a aucun intérêt.
Vous avez bien... J'ai donné le bâton pour me faire battre.
Un peu.
Donc, vous nous passerez peut-être l'hymne de l'équipe de France? Non. Des anciens hymnes, alors on va faire.
Ça a l'air de vous faire plaisir.
Pas l'hymne de Youssoufa, mais des anciens hymnes de l'équipe de France. Pourquoi pas? Et puis, voilà, sur l'euro, ça sera intéressant.
Vous faire un cadeau, c'est super, mais il y a des cadeaux pour tous les auditeurs qui passent sur l'antenne aujourd'hui.
Mais vous ne me l'avez pas dit?
Je vous le dis, Isabelle.
Vous le dis. Dites-le-moi.
Aujourd'hui, sur RTL, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne repartent avec 4 places pour le film Villa Caprice, un thriller judiciaire à le temps avec Nils Harestrup et Patrick Bruel, qui sort aujourd'hui au cinéma en partenariat avec RTL.
C'est un super cadeau, n'est-ce pas, Pascal?
C'est magnifique. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Mein Kampf réédité, rédigé par Adolf Hitler entre 1924 et 1925, alors qu'il purgeait une peine de prison après l'échec d'un putsch. Mein Kampf est le manifeste d'un homme qui se hissera au pouvoir par les urnes. Et il avait raison de le rappeler, Laurent, il y a quelques secondes, en 1933, avant d'engager l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes avec François, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour. Je vais acheter le Mein Kampf, mais parce que ce qui m'intéresse, c'est l'historisation de Mein Kampf. C'est pas le Mein Kampf, c'est toutes les notes historiques qui m'intéressent. Je vais acheter le Mein Kampf comme j'ai acheté et lu Les Bienveillantes de Jonathan Little, le Goncourt de 2006. Enfin, je veux dire, il y a effectivement, vous l'avez dit précédemment avec l'auditeur, et je partage son point de vue, l'histoire ne repasse pas les plats. Mais pour qu'elle ne repasse pas les plats, il faut la connaître, il faut l'apprendre, il faut ne pas la réécrire, mais pouvoir la critiquer. Et je pense entendre Serge Klarsfeld qui donne son accord à l'apparition de l'historisation de Mein Kampf, pour moi, ça a été quelque chose d'assez déclencheur. À partir du moment où Serge Klarsfeld dit « Ok, on peut y aller », ça a du sens, ça prend du sens, ça nous permettra de comprendre, d'étudier, d'analyser et de savoir contre quoi on doit se battre, quelle que soit la dictature contre laquelle on doit se battre. On ne parle pas du nazisme ou du fascisme, quelles que soient les dictatures de la pensée contre lesquelles on doit se battre. On doit sauver, préserver absolument notre démocratie, et pour préserver cette démocratie, il faut apprendre de l'histoire, enfin, quelle que soit l'histoire, sans la réécrire. Enfin, voilà, c'est juste
mon vous point achetez de souvent des livres d'histoire, François, peut-être, vous vous intéressez beaucoup à une période en particulier ?
Alors bah moi, je suis un passionné d'histoire. J'ai redécouvert l'histoire du Moyen Âge, dont on dit qu'elle est une histoire sombre, alors qu'elle est une histoire qui peut apparaître assez brillante. Si on regarde l'histoire, on a de grands. Vous parliez de religion, mais on a aussi de grands philosophes, de grands médecins musulmans. Je pense à Averroès ou des choses comme ça qui ont beaucoup apporté. Donc, on ne doit pas figer notre état d'esprit d'aujourd'hui. Il faut toujours réfléchir, apprendre, comprendre. Mais pour apprendre et comprendre, il faut se pencher sur ce qui s'est passé, sur notre passé. Pouvoir le regarder avec le regard de l'historien, le regard posé, le regard critique, mais sans refaire l'histoire. On ne la réécrira pas, hein. Je veux dire, c'est pas possible. Moi, je n'étais pas né à cette époque-là. Je ne sais pas dans quel camp je me serais tenu à cette époque-là, tellement l'époque était difficile. On sait aussi tout ce qui s'est passé en Allemagne à partir de 1929. Donc il faut pouvoir entendre, comprendre, ne pas oublier qu'en Allemagne, il y a eu aussi des mouvements de résistance, mais il faut absolument continuer à porter la parole. Je veux dire, moi je suis du nord de la France, une région qui a vécu les deux invasions, les deux guerres mondiales, la première guerre mondiale qui a été absolument terrifiante, qui a laissé des cimetières militaires, il suffit d'aller à Vigny, il suffit d'aller à Lorette. Voilà, on doit comprendre l'histoire pour qu'elle ne se reproduise pas, que l'histoire ne repasse pas le même plat, quoi, quelque part, et ne pas reconnaître les mêmes erreurs, parce que nous sommes en démocratie, et la démocratie est quelque chose de fragile.
Bah effectivement, c'est ce que vous dites, je pense que beaucoup de gens peuvent souscrire à 100%. Vous êtes dans un univers d'histoire, peut-être, de travail
Pas du tout. Moi, je suis,
donc c'est une passion.
Je suis engagé, très engagé syndicalement parlant, mais je suis pas un historien, non, je suis pas un universitaire, ni un historien, ni un professeur.
Mais vous êtes un passionné de culture.
Ce que mon père m'a transmis, ce que j'essaie de transmettre à mes enfants, et ce que j'essaie de comprendre. Revenons sur Les Bienveillantes, par exemple. On parle beaucoup de Mein Kampf, mais si on lit Les Bienveillantes de Jonathan Little, le livre est absolument terrifiant. Pour ceux qui ont lu les 800 pages du bouquin, c'est absolument terrifiant, même si c'est un roman. C'est très construit, ce que Little a fait. Hein, on n'a pas le concours pour rien non plus, hein, mais c'est quelque chose...
Non, mais c'est un livre fort. Un livre, alors, pour tout dire, moi, je me souviens avoir lu les 150 premières pages, avoir lu les 50 ou 100 dernières pages, et effectivement, c'est 800 pages, donc 800 pages, c'est du temps. Hein. Moi, je me suis amusé... Voilà, donc je me suis amusé, je lis 40 pages à l'heure à peu près, c'est le rythme, hein, 40 pages. Et Jonathan Little, comme c'était écrit petit, je pense que c'était peut-être plus 20 que 40.
Et peu de chapitres,
voilà. Donc à ce moment-là, il faut quand même parfois 20 heures, 30 heures ou 40 heures hein, de lecture, ce qui est forcément beaucoup. Hein,
Mais on n'est pas obligé, par exemple, dans le Mein Kampf, ce qui est important, c'est les notes historiques. Donc il est intéressant de se poser, de regarder, de prendre un chapitre, de prendre un passage. L'auditeur précédent le disait, ça va dans tous les sens. défense. Donc ça va dans tous les sens, on sait dans quelles circonstances ça a été écrit, en prison, dans circonstances de dictée très particulières. Donc il est intéressant d'avoir le point de vue des historiens qui vont le rapprocher à l'histoire de l'époque. Pourquoi ça a été écrit? Enfin, l'attentat de la brasserie. On est après l'attentat de la brasserie Munich. On est. Enfin, il y a plein de choses comme ça. On connaît l'histoire. C'est maintenant pourquoi Hitler est arrivé à ce moment-là. Pourquoi il est emprisonné à ce moment-là? C'est très. Je pense que les notes historiques, on n'est pas obligé de prendre le livre et de passer, comme vous le dites fort justement, 20 heures ou 40 heures ou 60 heures dessus. Mais par contre, de s'arrêter un moment, de regarder, d'entendre quelque chose, d'entendre un reportage, de s'intéresser à ce qui va se passer. On est à la veille des célébrations du débarquement. Voilà, regardons ce qui s'est passé, pourquoi, quelles sont les conséquences de la crise économique, pourquoi ce retentissement dans ce pays merveilleux qu'est l'Allemagne, avec effectivement tout ce que vous avez dit, pourquoi c'est arrivé là, comment ça s'est construit, et qu'est-ce qui nous pend au nez de temps en temps si on n'est pas vigilant, quoi.
Bah merci parce que vous en parlez bien et pourquoi pas si un jour vous voulez faire de l'histoire à la radio ou à la télévision, bah vous avez peut-être une vocation.
Mais je suis à votre disposition, Pascal, c'est un grand plaisir.
Merci en tout cas, merci de cet éclairage. Il est 13h56, on va marquer une pause. On parlera de la vaccination pour les ados. Est-ce que vous avez, si vous êtes parent et même si vous êtes ado, est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et puis Karim Benzema, on a dit qu'on serait à 14h ou après 14h avec Philippe Sanfourche. C'est le premier match ce soir de Karim Benzema. Le flash dans une seconde.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est quasiment 14h. Olivier Bois, on est en avance. C'est assez rare. Le flash.
Eh bien, le parquet général requiert une peine de 5 ans de prison avec sursis à l'encontre de Bernard Tapie et la confiscation des biens saisis. Bernard Tapie est jugé en ce moment soupçonné d'avoir faussé l'arbitrage qui avait mis un terme à l'affaire qu'il opposait au Crédit Lyonnais en marge de la vente d'Adidas. Un homme de 49 ans a été abattu par le GIGN. Il était retranché dans sa maison depuis hier après-midi à Saint-Étienne-le-Lauz dans les Hautes-Alpes. Sa mère avait réussi à fuir. Le procureur parle d'un comportement menaçant. Il aurait manipulé une arme nécessitant un tir des gendarmes. Une enquête est tout de même ouverte pour comprendre les conditions d'ouverture du feu par les gendarmes. En Nouvelle-Calédonie, le troisième référendum d'autodétermination aura lieu le 12 décembre 2021. Le sport, c'est d'abord le football. Premier match amical de préparation pour les Bleus ce soir à 9 jours du début de l'Euro. France-Pays de Galles, coup d'envoi à 21h05 à Nice. Ce sera RTL Foot spécial équipe de France dès 20h45. Ce sera en effet ce soir le premier match de notre trio d'attaque Griezmann, Mbappé, Benzema. On va partir à Roland-Garros.
RTL.
Roland-Garros 2021.
Gauthier Delon-Bugard, on vous retrouve. Quel est le match en cours, Gauthier, avec vous?
Eh bien, Caroline Garcia, la Française, vient de faire son entrée sur le court Suzanne Lenglen. La Lyonnaise est opposée à la Slovène Erkog. Elle l'a toujours battue en compétition. 4 confrontations, 4 victoires pour Caroline Garcia. Donc on espère que ça va bien se passer pour la Française de 27 ans qui joue son 11e Roland-Garros. Un peu plus tard cet après-midi, Enzo Cuoco, le natif de l'île Maurice, sera opposé au 12e joueur mondial, grand spécialiste de la terre battue, Carreño Busta. Et pourquoi pas une nouvelle surprise, pourquoi pas une qualification d'un Français pour le 3e tour. Élimination en revanche d'Harmony Tan face à la Tchèque Vondroušová. Cette joueuse de piano en dehors des cours, la Française, nous aura tout de même gratifié d'un coup exceptionnel entre les jambes, c'est à noter. Du côté des favoris, l'Allemand Alexander Zverev s'est imposé très rapidement en 3-7 face au Russe Safiulin. On verra cet après-midi le Grec Stefanos Tsitsipas ou encore l'Américaine Serena Williams. Pour l'instant, tout va bien. Il fait beau, 27 degrés, quelques nuages mais pas de pluie. On va surveiller cependant les radars puisque des orages sont attendus au-dessus de la porte d'Auteuil aux alentours de 15h.
Merci beaucoup Gauthier Delon-Bugard. À tout à l'heure 14h30 pour un nouveau point. Le quintet et l'arrivée provisoire à l'instant, 16, 6, 10, 15 et 14.
Et puis j'apprends à l'instant manifestement que 5 ans ont été requis avec sursis contre Bernard Tapie au procès Tapie. C'était les réquisitoires ce matin et l'information est en train de tomber. 5 ans avec sursis, 300 000 euros d'amende ont été requis à l'encontre.
C'était mon premier titre, Pascal. Vous avez bien mal sûr écouté mon premier titre.
Mais bien sûr, c'est pour ça que je vous dis, je l'apprends à l'instant grâce à vous.
Ah oui,
et
d'accord.
Et je le répétais, bien évidemment.
D'accord, j'avais pas compris. Je pensais que vous aviez mal entendu la première information de mon flash.
Merci Pascal. Merci Olivier, 14h.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Nous sommes donc avec Paola. Paola, bonjour. Et bonjour, nous sommes sur la vaccination. Vous avez 14 ans, par exemple. Est-ce que vous avez envie de vous faire vacciner?
Alors, tout d'abord, je m'en excuse parce que je vais vous faire une réponse un petit peu digne d'un politique. Je pense qu'on en entend déjà assez. Mais l'autre jour, effectivement, un adulte m'a demandé mon avis sur la question et je lui ai demandé pourquoi je devrais me faire vacciner. Puis il m'a répondu pourquoi pas. Et je trouve ça super intéressant, en fait, parce que justement, pourquoi pas? Bah, peut-être parce que depuis le début du virus, on nous dit que les jeunes fabriquent des anticorps. Donc, en fait, on se pose la question, pourquoi devrait-on le faire? Je ne sais pas si c'est du coup une question de protection peut-être pour les proches, mais moi, en fait, ce que je reproche un petit peu à cette campagne de vaccination, c'est qu'on ne comprend pas, pour certaines cibles, en tout cas de personnes, pourquoi celles-ci devraient se faire vacciner plus rapidement que les autres, et notamment, justement, bah, pour nous, les adolescents. Si on m'explique d'une manière très certaine, je veux dire, que cela pourrait avoir une réelle importance dans la campagne de vaccination, je pense que je pourrais le faire, mais pour le moment, je ne comprends pas pourquoi je devrais me faire vacciner, parce que tout va bien et j'ai confiance en mes anticorps de jeunes. Je peux dire ça comme ça.
Bah écoutez, c'est une position qui peut s'entendre, bien évidemment. Que disent vos parents? Ils sont vaccinés, par exemple, vos parents?
Non. Non, j'ai des parents assez sceptiques. Bon, je suis pas aussi... je suis pas de leur même extrémité, dans leur avis, mais oui, c'est vrai que eux, ils sont assez sceptiques sur le vaccin.
Donc, mais ils sont, il y a des raisons, par exemple, sans entrer dans le détail.
Ben non, pas forcément. C'est je pense que on nous propose ce vaccin assez rapidement, donc chacun a son avis, chacun pense ce qu'il veut. Il y en a qui pensent que qu'il faut le faire pour avancer. Moi, je fais plutôt partie de ces personnes-là. Il y en a d'autres, effectivement, qui disent qu'on manque de recul. Et puis, je pense que c'est aussi une position qu'on peut entendre.
Je comprends. Et parmi vos amis qui ont votre âge, donc de jeunes adolescents, vous avez le sentiment que les gens sont plutôt pro-vaccin, ils ont envie de se faire vacciner, ou au contraire, ils pensent comme vous que les anticorps d'une jeune personne suffisent?
Alors, c'est pas exactement ce que j'ai dit, mais effectivement, eux aussi ne comprennent pas vraiment l'utilité de se faire vacciner. Parce que depuis, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis le début de cette épidémie, on nous dit que les jeunes fabriquent des anticorps qui, peuvent éviter plus facilement ce virus. Et donc, on ne comprend pas trop pourquoi on devrait se faire vacciner, à part si effectivement cela a une utilité de, empêcher juste le virus de circuler plus rapidement. Et donc ça, c'est effectivement des positions que je pourrais entendre, mais on ne nous l'explique pas, je trouve.
Eh ben, merci Paola de ce premier témoignage sur la vaccination, effectivement, puisque maintenant tous les jeunes, tous les adultes peuvent se faire vacciner, mais on imagine effectivement que la vaccination puisse aussi toucher après les 12-15 ans, et cette question, elle sera forcément débattue dans les familles.
Voilà, je pense que c'est vraiment avec la transparence du gouvernement, dire pourquoi on fait ça, comment on avance, que peut-être que justement ça convaincra plus facilement la population.
L'Agence européenne du médicament a validé le vaccin Pfizer pour les 12-17 ans. La Haute Autorité de Santé donc s'apprête à donner son avis. Selon la professeure Christelle Grasse-Le Guen, secrétaire générale de la Société française de pédiatrie, c'est une question sans précédent puisqu'on s'apprête à vacciner une population qui n'aura aucun bénéfice direct du vaccin. C'est intéressant d'ailleurs comme position. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Nous allons parler de la SNCF parce que tout le monde pense à peu près la même chose. Les billets de train sont trop chers. Alors peut-être y a-t-il des solutions, prendre des cartes, etc. Des cartes jeunes, des cartes seniors, des cartes voyage à deux, je ne sais pas. Nous sommes avec Monique qui est là. Bonjour Monique.
Coucou Pascal. Bonjour.
Ah, mais je reconnais votre voix, Monique. Monique de Paris.
Oui, et puis l'accent en plus, l'accent d'Albi.
Mais bien sûr, Monique. Alors, moi, je trouve que c'est cher, mais peut-être que je me débrouille mal. Donc, je voudrais.
Ça, c'est clair.
Bah oui, parce que je paye à chaque fois une fortune, moi.
Bon, alors, moi, je vais vous dire. Je pars le 19 juillet à Toulouse. En fait, je vais à Albi, mais mes soeurs et mes beaux-frères viennent me chercher à Toulouse, à Matabiau. Bon, peu importe. Albi, Toulouse, le 19 juillet, 28 euros. Le retour 16 août, Toulouse, Paris, 28 euros. Ceci dit, j'ai pris les places il y a au moins 2 mois et demi, 3 mois. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est
non,
que...
Non, mais vous avez tout dit. Voilà, c'est, effectivement, s'il faut prendre ses billets 4 mois à l'avance, ça, c'est ça qui est compliqué.
Ah, mais c'est sûr, oui, mais moi, je travaille plus.
Bah oui, je suis d'accord avec vous, mais bon, moi, je ne sais pas ce que je vais faire la semaine prochaine. Le week-end, parfois, tu peux décider au dernier moment dans un endroit. Tu te dis pas le. Alors si pour les vacances, ça, on peut s'organiser comme ça précisément, mais autrement c'est compliqué quand même.
Oui, puis non, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous prenez dans un wagon 10 personnes, il y a 10 tarifs différents. Oui, alors hier soir, il disait à la télé au JT que avant, bon, moi je me rappelle de ça, j'étais beaucoup plus jeune. Mon Dieu, ça me rajeunit pas tout ça. On payait au kilomètre. Ce qui fait qu'on payait tous pareil, sauf les militaires qui avaient quart de place ou les grands invalides de guerre comme mon père qui payait quart de place et la personne qui les accompagnait payait aussi quart de place. Mais là maintenant, vous prenez 10-15 personnes, c'est 15-10 tarifs différents. Je vous dis, moi j'ai payé 28 euros pour le 19 juillet et le 16 août.
Bon, bah écoutez, moi je suis en train, pendant que vous parlez, comme j'ai l'appli SNCF, pendant que vous parlez...
Oui, moi aussi, dans mon portable, voilà. Et je prends mes billets deux sur mon portable, vous avez vu si je suis calé?
Mais vous êtes... Alors moi je suis en train de caler, vous voyez, par exemple, je veux dire, si je veux, moi, partir en résultat... Non, à Albi. Je regarde, à Albi.
Ah oui. Mais prenez Toulouse, c'est plus simple.
Bah non, mais moi, je viens de faire Paris à Albiville. Le prochain train, visiblement, il est à 16h45. On arrive à Albi à 22h22. J'ai une correspondance. Bon, et vous savez combien je vais payer ?
Non, attendez, vous avez une correspondance à quel endroit ?
Ben, je ne sais pas, c'est marqué une correspondance.
Il ne faut pas faire ça, il faut faire Paris-Toulouse.
Bah oui,
en TGV.
Parce
que si vous passez par Limoges, Brive-la-Gaillarde, comme quand j'avais 20 ans, ça ne va pas faire.
16h45, 22h22, c'est pas mal. J'arrive à 22h22 à Albi. Bon, et ben je paye 119 euros en seconde classe.
Ben oui, pour demain.
Ben non, c'est même aujourd'hui. Je pars, je vais partir à Albi. À 16h45, je vais partir à Albi et je vais revenir demain matin. Non, mais 119 euros pour aller à Albi, c'est pas donné en seconde.
Mais c'est cher, alors que moi, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est 28 euros aller et retour, c'est en première.
Vous faites 28 euros en première. Ah oui, en première, là, c'est 169 euros.
Ben oui.
Donc c'est 7 fois moins cher.
Mais oui.
Bon, alors c'est l'aller-retour. Hein. C'est l'aller-retour. Est-ce que c'est l'aller-retour ? Non, c'est l'aller. Ça, ce n'est que l'aller.
Bien sûr que c'est l'aller, bien sûr.
Ce n'est que l'aller.
Le retour encore. Oui, c'est sûr.
Et alors, le retour, je vais vous dire, parce que avec ma petite appli, je vais peut-être.
Elle est géniale, cette appli.
D'accord avec vous. Elle est géniale,
je me sers que de ça. Je ne me sers même pas de l'ordi. Je ne vais même plus à la gare. Je ne fais que ça. D'ailleurs, moi, je fais toujours Paris-Toulouse. Et puis, comme on vient me chercher à Toulouse, il n'y a pas de souci.
Et le retour est à peu près au même prix. Donc, c'est quand même très, très ennuyeux.
Ah ben, c'est cher.
Ben, c'est cher, c'est bien ce que je vous dis.
Si vous partez au dernier moment, ça vous coûte la peau des fesses, comme on dit vulgairement.
Ben, ça, c'est assez vulgaire, si vous me permettez, effectivement, Monique. Ça, c'est pas dans la bouche d'une jeune fille. Franchement, je suis un peu déçu.
Alors, la peau des genoux.
Bon, la peau des genoux. Bon, ben, merci, Monique.
Non, c'est pas vulgaire, c'est tout le monde
non,
le dit.
Non, c'est la vie. C'est la vie de tous les jours. Merci beaucoup, Monique.
Alors, donc, on parle vite tout à l'heure tous les deux.
J'ai un emploi du temps.
Ça risque de vous poser un problème professionnellement parlant, non, Pascal?
C'est possible. Alors ce trajet, 16h45. Ah oui, alors regardez, parce que j'ai le détail. Paris-Montparnasse, j'arrive à Montauban à 20h43.
Et là, vous prenez un bus.
Et j'ai un bus, dites donc, de 22 minutes de correspondance jusqu'à Montauban, Ville-Bourbon.
Oui, tout à fait.
Et j'ai un autocar. Donc,
Ça marche très bien. Montauban-Albi, il n'y a même pas 100 km, de toute façon.
À Montauban-Albi, alors...
C'est des fois plus facile même de faire Paris-Montauban et Montauban-Albi.
Mais d'un autre côté, comme Philippe Ray de Montauban, peut-être a-t-il eu un membre de sa famille qui pourrait venir me chercher à Montauban et m'amener jusqu'à Albi. Parce qu'il a un grand cœur, Philippe Ray.
Et puis là, ma sœur et mon beau-frère viendront vous chercher.
Bon, c'est gentil. Merci, Monique. Merci.
Je vous en prie, Pascal.
Il est 14h13.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Yassine nous a rendu visite alors que nous ne sommes pas vendredi.
Ben non, mais mercredi.
Et nous sommes mercredi, mais je vous ai écouté ce matin parce que vous allez pouvoir parler avec nos auditeurs de Benzema. Vous avez parlé de Benzema ce matin.
J'ai parlé de cette grosse confiance qui habite nos bleus. Peut-être trop grosse confiance.
Alors Laurent est là et je vous donne la parole. C'est vous qui faites les auditeurs. Ça vous va, Cyprien Yassine?
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où, Laurent? Parce que j'ai pas les fiches,
moi. Strasbourg,
formidable, Strasbourg. Très beau club de foot, la Méno, tout ça.
Ouais, c'est ça, des super coachs qui arrivent.
Là. Le Marseille de l'Est, comme on l'appelle.
Ouais, sauf que nous, on gagne.
Ah, joli, joli. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire sur l'équipe de France? Vous êtes content du retour de Benzema?
Parlez dans le micro, parce que là, vous parlez pas dans le micro.
J'ai le masque.
Parlez dans le micro, Cyprien Sini.
Oui.
C'est... Sur le plan sportif, il n'y a pas à dire, Benzema c'est un atout supplémentaire pour notre attaque. Il n'y a pas débat pour moi personnellement, sauf que sportivement parlant et au point de vue footballistique, Benzema ça peut que faire du bien à l'équipe de France. J'espère qu'on le verra déjà ce soir, et si ce n'est pas le cas ce soir, j'espère que ce sera le cas au moins pour le championnat d'Europe. Maintenant, faire une couverture médiatique aussi importante pour ce qui est pour moi un non-événement, ça complètement incohérent.
Ah ben vous parlez comme Deschamps, un non-événement, mais c'est un événement, ça fait quand même des années que tout le monde le réclame, il revient, c'est un événement, on est obligé d'en parler.
Mais non, c'est parce que c'est vous qui faites la polémique.
Ah mais il n'y a pas de polémique, il est là, mais après est-ce que ça va changer le jeu de l'équipe de France par exemple? Est-ce que vous pensez, j'avais une discussion avec mon fils ce matin, qui est fan de foot, il me dit il est meilleur que Giroud. Je dis oui, il est meilleur que Giroud, mais est-ce que dans le système Deschamps, est-ce que dans l'équilibre de l'équipe, il est plus utile ou pas? Quel est votre avis, Laurent?
Ah non, mais c'est complètement différent. Giroud, il serait utile dans un système tactique qui ne va pas être le 4-4-2 qui potentiellement serait là ce soir.
Eh.
Mais moi, je verrais plutôt Giroud à la place de Griezmann, avec Benzema, avec un Giroud en point de fixation, Benzema qui tourne autour, et vous mettez les deux flèches, là, Mbappé, Coman ou Dembélé sur les côtés. Et derrière, vous fermez avec Pogba, Rabiot, Kanté. Voilà.
Mais vous la trouvez pas trop confiante, cette équipe de France? Vous avez entendu Coman, vous avez entendu Tolisso en train de dire on est champion du monde.
Trop confiante, non. Mais moi,
ça ne vous rappelle pas 2002, par exemple, ça? On rappelle.
C'était 2002. La chronique de ce matin de Cyprien Sini.
Ah ben je recycle. Hein.
Non, mais vous remplacez. Oui, elle est un peu confiante, mais vous remplacez, c'est étrange quand même, vous remplacez Griezmann par Giroud.
Ah, ouais, carrément.
Mais Benzema, vous le mettez où?
Ben juste derrière Giroud.
Autour de Giroud.
Donc vous mettez Giroud devant, ouais. Benzema derrière et les deux flèches sur les côtés, vous avez dit.
Ouais.
Giroud en point de fixation. Et les quatre autres qui tournent autour.
Bon, en tout cas, vous êtes pas mal pour animer les auditeurs. On la parole à Cyprien Sini. Vous avez le contact avec le public.
Il y
a un vrai potentiel. Vous avez le contact avec le public.
Mais j'aime les gens. J'aime le public.
J'aime
le public.
J'aime
j'ai l'impression de parler comme un homme politique. J'aime les vrais gens de la vraie vie du public.
Restez avec nous. Restez avec nous deux secondes. Vous n'avez rien à faire. On est avec Philippe Sanfourche et toute la maison RTL. Il est là, Philippe?
Bonjour les amis.
Philippe Sanfourche, vous savez qu'on vous envie. Vous êtes où là?
À Nice.
Ah, alors là, je suis sur le toit d'un hôtel, qui est celui d'ailleurs où réside l'équipe du Pays de Galles.
Ah.
Donc le temps n'est pas merveilleux, mais on a quand même une très très belle vue sur la baie des Anges.
Bon, c'est la première fois que vous allez voir peut-être Karim Benzema, que vous allez commenter Karim Benzema en équipe de France.
Ah ben non, j'ai le souvenir moi de l'avoir commenté sur son dernier match justement qui était ici même à Nice il y a 5 ans et demi, donc petit hasard du destin.
Ah, c'est un clin d'œil de l'histoire.
Exactement. Il avait marqué 2 buts et l'équipe de France avait gagné 4-0 contre l'Arménie. Donc on verra.
Bon. Manifestement, je vous ai écouté, les entraînements, paraît-il, c'est formidable, la technique, c'est merveilleux, enfin...
Vous avez écouté ma chronique de ce matin.
Évidemment, c'est régalade, Philippe Sanfourche, bon, vous êtes tombé en pâmoison devant cette équipe de France, tant mieux d'ailleurs, parce que l'actualité est suffisamment lourde, tout le monde nous envie notre équipe de France, donc on est les meilleurs du monde.
Non, mais il faut regarder les choses avec un peu de recul, mais factuellement, il est évident que pour l'instant, des signes négatifs, on peut les chercher, on n'en trouve pas. Ils ont tous le sourire, ils sont tous heureux d'être là, et effectivement, quand on assiste à leurs échanges lors des séances d'entraînement, ça a l'air d'être plutôt sympathique et ça fonctionne bien.
Maintenant, et Benzema s'entend bien avec tout le monde, même avec Giroud, alors qu'il y avait eu quand même des paroles qui avaient été échangées. Lui disait « je suis une Formule 1 » et j'ai plus lu... C'est un karting. Bon, tout ça...
C'est une Renault Fuego.
Voilà, tout ça est oublié.
Mais Pascal, vous travaillez formidablement bien avec toute une rédaction et vous n'êtes pas tous les jours à prendre l'apéritif et aller au restaurant avec chacun.
Ah, je confirme.
C'est la vie,
surtout s'il doit payer.
C'est la vie d'un groupe.
Sauf que j'ai jamais dit du mal de mes collègues d'RTL. C'est compliqué
c'est
quand.
Ils ne l'ont pas, ça n'est pas encore revenu à leurs oreilles.
C'est agréable, c'est gentil. Non, mais bon, Philippe, donc tout va bien. Et avec Deschamps, ça va bien.
Oui, Didier Deschamps, il est effectivement dans une posture. Quand il parle de non-événement, c'est un peu caricatural. Mmh. Mais il sait qu'il a un petit passage compliqué parce que, comme vous l'avez si bien dit après la liste, il a dû un petit peu avaler son chapeau. Mais il fait un choix et maintenant on va voir si le terrain lui rend. Ce qui est certain, c'est qu'il a senti qu'il y avait besoin d'une nouveauté, qu'il y avait besoin d'une étincelle.
Non, mais vous l'avez dit et on l'a bien compris qu'il fallait booster l'ensemble. Cyprien,
vous
dernier mot.
Vous suivez les Bleus depuis de très nombreuses années. Je me souviens, 2000 déjà à l'Euro, vous y étiez. Philippe, 2002, cette année, l'excès de confiance, on peut le craindre ou pas?
Alors, l'excès de confiance, ça peut toujours arriver. Il faut quand même pas oublier qu'en 2002, il y a eu un problème majeur qui est venu se greffer dès le début de la compétition. C'était la blessure.
Mais oui, évidemment. Il n'en a pas parlé ce matin. Ben voilà, c'est une mauvaise foi.
D'accord, mais bon, si la meilleure équipe du monde repose sur un joueur, ça marche pas.
Non, mais vous êtes de mauvaise foi. Mais vous étiez au championnat d'Europe en 2000,
il y était déjà.
Aux Pays-Bas et en Belgique, Philippe, déjà?
Ah, je crois que c'était le tout début de ma...
De votre brillante carrière.
Ils vous regardaient même pas, Pascal Pro, à l'époque. Lui, c'était une star à la télé, ils vous regardaient même pas.
Avec l'ami Christian Olivier. Bah, merci Philippe.
Exactement.
On vous écoute, c'est 20h45 ce soir, la prise d'antenne d'RTL.
Exactement.
Sous l'égide de Christian Olivier.
Mais comme toujours, il faut un patron.
Il faut un patron dans une équipe. Merci Monsieur Sini.
De rien.
Le débrief.
Vous pouvez rester pour le débrief de Laurent Tessier.
Bien sûr, le débrief. Ah bah restez.
Je vais mettre la pression.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Je travaille pour mon ami Laurent.
Oui, je sais. Vous travaillez pour le débrief.
C'est notre question du jour. Comptez-vous aller voter pour les élections régionales et départementales les 20 et 27 juin? Véronique est candidate et elle nous a fait une petite présentation du monde politique.
C'est sûr que c'est Egoland. Hein. Ils imposent leurs idées. Nous, pour la campagne, par exemple, on voulait faire une photo à certains endroits avec des enfants. Ah ben non, faut pas faire comme ça. Bon, il a fallu carrément que je me fâche en disant, mais moi, je veux faire comme ça. Ah oui, mais vous ferez pas tant de pourcents, machin. Laissez-moi donc, monsieur, faire mon expérience. Oui, un univers très, très machiste.
Et sinon, le billet de train coûte-t-il trop cher? Un avis, Monique?
Si vous partez au dernier moment, ça vous coûte la peau des fesses, comme on dit vulgairement.
Ça, c'est assez vulgaire.
Oui, je vous en prie. Monique vous lance, Pascal, une proposition. Allez, malhonnête.
On part à lui tout à l'heure, tous les deux.
Et écoutez,
Comme chaque jour, nous faisons des petits points, Roland-Garros. Toc, 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 qui est là aujourd'hui?
Si vous êtes là, peut-être c'est parce qu'Isabelle Langer a décidé de reprendre la compétition et de descendre sur le central devant ses défaites françaises, cher Gauthier?
Peut-être, non, pas encore. Isabelle Langer est meilleure sur dur que sur terre battue.
C'est cela, oui.
Allez, mesdames et messieurs, continuons dans ce débrief avec une consigne.
Apportez un peu de légèreté.
Oui, l'équipe de France affronte ce soir à Nice le Pays de Galles. Premier match de préparation avant l'Euro.
Alors malheureusement, il n'y aura pas de joueurs ce soir. Vous savez pourquoi il n'y aura pas de joueurs, monsieur?
Dites-nous.
Eh bien, parce que c'est couvre-feu.
Mais attendez, c'est quoi cette histoire?
Pourquoi il n'y aura pas de joueurs? Il n'y aura pas de spectateurs, évidemment.
Ah oui, parce que c'est bizarre. Oui. Parce que sans joueurs, en effet, il n'y aura pas de spectateurs non plus, ça n'a aucun intérêt.
Nous voilà rassurés, l'événement, c'est bien sûr
le retour de Karim Benzema.
Eh oui, un grand événement.
Ce soir, il sera donc sur la pelouse de Nice.
Attendez, où Karim Benzema va-t-il faire son retour?
Ce soir, il sera donc sur la pelouse de Nice.
Ah, elle a de la chance, cette Denise, de recevoir Karim Benzema. Je rappelle que...
Je travaille pour mon ami Laurent.
Oui, je sais. Vous travaillez pour le débrief.
Et on a bien compris, ce soir, une attaque de feu. Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, Karim Benzema. Pop. On a de quoi être confiants, les amis.
Nous avons la meilleure équipe du monde, amis. Donc nous avons déjà gagné l'Euro. Oh, les champions!
Équipe au top, mais pas seulement.
Nous avons le meilleur entraîneur du monde, Saint Deschamps.
Mais, il y a toujours un mais dans la vie.
Mais, souviens-toi 2002.
Non !
Lorsque nous étions partis pour la Corée et le Japon, nous étions champions du monde. Nous avions la meilleure attaque du monde, les meilleurs joueurs du monde. Et nous étions revenus bredouille.
C'est vraiment la caca, la cata, c'est la
catastrophe. Donc s'il vous plaît, lancez un appel, Pascal.
Humilité.
Et oui, Didier Deschamps, un message à faire passer aussi.
Humilité.
Voilà, c'est retenu. Et les débriefs pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec l'hymne des joueurs français, Roland Garros et ses nombreuses défaites.
Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord.
La vie flamande dans quelques secondes, mais nous partirons pour Roland Garros avant cela.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur